M.
Le goût de M.
M. Le magazine du Monde présente Le goût de M. Un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
Qu'est-ce qu'avoir du goût ? Qui a bon goût ? Mauvais goût ? Pour le savoir, cette semaine, Le goût de M a rendez-vous avec Aurélie Saada. Elle est chanteuse, autrice, compositrice, interprète et réalisatrice. Elle a pendant 15 ans fait partie de Brigitte, un duo pop, sensuel et lamé qu'elle formait avec Sylvie O'Haraud et qui s'est fait connaître notamment avec une reprise de Ma Benz de NTM. Depuis qu'elle est en solo, Aurélie Saada ne cesse d'affirmer son goût. Elle a sorti un album, Bomboloni, nourri par ses souvenirs d'enfance et sa découverte toute récente de la Tunisie, terre d'origine de ses parents et de ses grands-parents. Elle a également réalisé un premier film, Rose, avec Françoise Fabian, l'histoire d'une femme, Rose donc, qui à 80 ans redécouvre le désir et la joie de vivre. Alors du désir, je sens qu'il va en être beaucoup question dans cet épisode. On a rendez-vous chez elle, dans le 9e arrondissement de Paris. On passe devant les magasins vintage, on continue un tout petit peu sur la droite. On y est. Bonjour.
Ça va ?
Aurélie Saada, on est chez vous. C'est un espace qui vous ressemble ici ?
Je crois, oui. Je crois que ça me ressemble beaucoup. C'est à peu près aussi... Moi, je dis souvent beaucoup c'est bien, trop c'est mieux. Voilà.
Vous le décririez comment ?
Chargé.
On s'est avancé dans cet appartement haussmannien, chaleureux, coloré, joliment éclairé par de belles lampes vintage, art déco. On s'est installé autour de la grande table du salon, près de la fenêtre, avec vue sur les toits de Paris. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
La fleur d'oranger. Parce que il y en avait partout. C'est un parfum que j'adore. D'ailleurs, ça sent la fleur d'oranger ici. Parce qu'il y a quelque chose d'hyper rassurant pour moi dans ce parfum-là. Il y a quelque chose de tendre, il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de ma famille, il y a quelque chose de gourmand.
C'était dans les desserts que faisaient vos parents, votre famille ?
Alors, plutôt ma grand-mère que mes parents, en fait. Ouais. Mais ma grand-mère habitait dans le même immeuble. Elle était au 3e étage, on était au 6e. Et ma grand-mère était maîtresse d'école et directrice d'école après. Et elle s'est beaucoup, beaucoup occupée de ma sœur et moi. Et on passait beaucoup de temps chez elle. Et puis c'était...
Voilà, votre grand-mère tunisienne ?
Ma grand-mère tunisienne. Toutes mes grand-mères sont tunisiennes d'ailleurs. Mais celle-là habitait dans le même immeuble, Yvette. Et donc je mangeais ses gâteaux, ses caques, ses boulous à la fleur d'oranger. Le mazar, elle appelait ça, pas la fleur d'oranger d'ailleurs.
Et c'était dans quel quartier ? Vous avez grandi dans quel... à Paris ?
J'ai grandi à côté du canal Saint-Martin, rue de l'hôpital Saint-Louis. 8 rue de l'hôpital Saint-Louis. Enfin, je suis née rue de la Grange-Aubel et ensuite hôpital Saint-Louis. Ma grand-mère habitait au 3e étage, certains de mes oncles habitaient encore là. ma mère, donc, qui est la sœur aînée, quand on a emménagé dans cet immeuble, on était au 6e, et c'est vrai que on passait beaucoup de temps avec elle. Ma sœur et moi, il y avait quelque chose de, à la fois, cette enfance était assez joyeuse et rassurante, le fait d'être entourée par sa famille comme ça. Et en même temps, je peux pas dire que j'ai eu une enfance totalement lisse ni joyeuse parce que bon, j'en parle un peu dans une chanson, mais j'avais un secret ultra violent. J'ai été violée par un petit garçon pendant quasiment toute ma scolarité.
C'est maternelle. Cette chanson d'ailleurs, rue de la Grange-Aubel, dans laquelle vous en parlez.
Dans lequel, voilà. Et j'ai été, même si cette famille était très protectrice et très douce, j'ai été incapable de leur dire, peut-être pour préserver quelque chose de cette douceur et de cette joie dans cette famille. Mes parents sont arrivés en France quand mon père quand il était adolescent et ma mère quand elle était petite fille. Ils sont arrivés, mon père dans les années 60, ma mère dans les années 50. Ça a été quelque chose d'assez... une sorte de déchirement, sans le dire. ils ont quitté la Tunisie, enfin pour la famille de ma mère, ils ont quitté la Tunisie dans les années 50. Mon grand-père était dans la deuxième DB du général Leclerc, donc il fait partie des gens qui ont libéré Paris, et il est allé faire la guerre en Allemagne. Et quand il est arrivé en Tunisie, après la guerre, après avoir été... décoré par la France, enfin, il est rentré en Tunisie et il a repris le travail et en fait, il a vécu l'antisémitisme en Tunisie parce que ça a été une période assez compliquée entre les années 50 et les années jusqu'à la guerre des six jours, je crois à peu près, où les juifs arabes, en fait, comme ce qu'étaient mes parents, mes grands-parents, ont vécu, une injustice terrible, enfin l'antisémitisme. Et ayant vécu ce qu'il avait vécu en Allemagne, il a décidé de, je crois, de protéger sa famille et de partir. Donc il est allé en France, un peu comme ça. C'était un peu l'aventure. Et pour la famille de mon père, c'est un peu la même chose. C'est une famille très très modeste. C'est pas des familles qui vivaient dans l'abondance en Tunisie, mais plutôt dans quelque chose de d'extrêmement modeste. D'ailleurs, les quartiers où mon père a vécu est né n'existe plus, a été complètement rasé tellement c'était un quartier pourri, quoi. Donc ils sont tous arrivés en France avec une forme d'espoir de trouver quelque chose de doux, et en même temps avec des souvenirs comme ça hyper présents, et un pays qu'ils aimaient tant, la Tunisie. Donc c'est comme s'ils avaient recréé un peu de la Tunisie à Paris.
Ça se sentait chez vous quand vous étiez enfant ?
En tout cas, on n'allait pas en Tunisie. Ouais. Moi, quand j'étais enfant, on n'est jamais allé en vacances en Tunisie. Alors que on voyageait, on est allé en Afrique, on allait en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Enfin, on a voyagé quand j'étais enfant, mais on n'est pas allé en Tunisie. Comme s'il y avait un tabou, comme si on pouvait pas y retourner, comme si il fallait garder des souvenirs intacts et magnifiques, il fallait pas...
pas toucher à ça. Ouais.
Voilà. Ouais. Donc j'ai pas connu ce pays jusqu'à cette année. Donc j'y suis allée pour la première fois au mois de juillet, après avoir écrit une chanson qui parle de ce questionnement intime pour moi, qui était tellement étrange, quoi. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Ce pays qui est si présent dans ce qu'on cuisine, dans les mots doux qu'on se dit, dans les blagues qu'on se raconte. Mes grands-parents, ils s'engueulaient en arabe pour pas qu'on comprenne, mais les blagues, elles commençaient en français, elles finissaient en arabe. On comprenait jamais la chute, certainement, parce que c'était un peu, on voulait pas que les enfants entendent. Mais il y avait quelque chose comme ça. Et puis ma mère, quand on éternue, elle nous dit pas à tes souhaits, elle nous dit taïch, elle nous parle en arabe, et c'est resté, en fait. C'est toujours resté, et il n'y a pas une fête sans musique orientale, il n'y a pas... Donc c'était tellement présent et tellement absent.
Votre père, il était gynécologue, enfin il l'est toujours.
Ouais,
père.
Toujours gynéco.
Qu'est-ce que vous diriez de ses goûts ?
Mon père et le goût, c'est une sacrée histoire. Mon père a été élevé par une femme, ma grand-mère reine.
Ouais.
Donc, pas mon côté maternel, mais l'autre côté. Donc, il vivait à Créteil. Et ma grand-mère, mémé reine, c'est pas n'importe qui. C'est une référence pour certains d'entre nous. C'était quelqu'un de très, très égoïste. Plutôt pas très sympathique et pourtant très sympathique, ultra séductrice. On dit d'elle qu'elle avait plutôt mauvais goût, parce que son tout petit appartement dans cette HLM où il vivait, je sais pas combien, elle avait 4 enfants, et c'est marrant parce qu'elle avait donc, un peu comme moi, mais pas exactement les mêmes, des tas d'objets partout, des vitrines remplies de petites choses, ça débordait, ça explosait, et elle était toujours habillée avec des choses vraiment, des paillettes, du doré partout, des choses très bon marché. Il y avait un côté très, comment dire, clinquant, brushing gonflé, tout faux. c'était quelqu'un de très particulier. Et elle était très égoïste.
Ouais.
Elle pouvait dire des choses très méchantes en faisant comme si elle l'avait pas fait exprès ou qu'elle l'avait pas dit. Elle pouvait dire des horreurs sur son mari devant lui, elle pouvait dire des horreurs sur ses enfants devant eux. Voilà. Ça, c'était ma grand-mère. Donc, mon père a été élevé par cette femme étrange. Donc, je pense qu'à la fois, il en a souffert et à la fois, il a hérité de quelques petites petites choses. Mon père, c'est quelqu'un qui était très présent quand on était enfant et puis qui a totalement disparu de nos vies pendant des années. C'est quelqu'un que j'ai pas...
À l'adolescence, quand vous aviez 17 à 18 ans, ouais.
Ouais. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un que je vois un petit peu, maintenant que j'ai écrit une chanson sur lui, sur le dernier album de Brigitte. On a repris un peu contact, mais pendant des années, c'est quelqu'un qui, quand il a quitté ma mère, a décidé de quitter ses enfants aussi. Et puis de nous dire des horreurs. C'est quelqu'un de particulier. Bon, c'est mon père. Et je l'aime. C'est quelqu'un de très fantaisiste aussi et de très intéressant. Donc il a un goût spécial, mon père. Entre les études qu'il a fait, la culture qu'il s'est battu pour avoir, pour sortir de cette famille-là, et en même temps, ben, quelque chose de ça qui est resté.
Oui. Et votre mère, alors, elle psychanalyste?
C'est quelqu'un qui ne cesse d'apprendre et de me surprendre par tout ce qu'elle sait, par tout ce qu'elle... Elle a vraiment elle a la curiosité en elle, le goût des choses. Elle va énormément au cinéma, elle va énormément dans les expositions, elle lit beaucoup. C'est quelqu'un qui est très curieux et sans cesse en mouvement. Elle a des nouveaux amis tout le temps, qui l'emmènent ailleurs, qui lui enseignent des choses. Elle aime ça. C'est quelqu'un qui interroge. Elle est très curieuse.
Ça, vous le sentiez quand vous étiez enfant?
Je sais pas si
son appétit comme ça pour elle vous le transmettait, enfin pour oui. Les livres, enfin la culture quoi.
Bah il y a toujours eu des bibliothèques immenses chez mes parents. Ils lisaient beaucoup, ils s'interrogeaient le matin quand on venait les voir dans leur chambre. Ils étaient tous les deux dans le lit avec un café et c'était des débats immenses. Il y avait quelque chose d'assez magique et puis ils parlaient, ils débattaient sur autant la mécanique quantique que je sais pas l'interprétation des rêves. C'était vraiment et il y avait quelque chose d'assez génial dans ce que je voyais d'eux en tout cas en tant qu'enfant quoi. D'une connivence intellectuelle, d'une relation comme ça, d'une discussion qui n'en finissait pas.
Chez votre mère aussi, vous parliez de sa beauté, de souvenirs de la voir sortir, maquillée, hyper belle, avec des robes en cuir, c'est-à-dire voilà, une intelligence, une féminité, tout ça en fait.
Ben, elle est très belle. Ma mère avait quelque chose de Sophia Loren dans sa jeunesse. Vraiment, c'est à s'y méprendre. Quand on voit des photos, elle a une beauté comme ça, un peu italienne, quoi, de ce cinéma-là. D'ailleurs, elle adore le cinéma hollywoodien. Elle me dit, oh, tu devrais regarder là. Donc, apparemment, en ce moment, sur je ne sais plus quelle chaîne du câble, il y a une rétrospective des films avec Marilyn, Rita Hayworth. Elle me dit, faut que tu regardes. Et moi, c'est des films que j'adore. Mais elle les connaît vraiment tous et elle les regarde tout le temps. Et elle se faisait faire des robes inspirée par ces personnages hollywoodiens quand elle était plus jeune, pour les fêtes de famille, les bar mitzvahs, les mariages. Elle a renoncé à rien, ma mère. Ni à l'amour, ni à la douceur, ni à la famille, ni au travail, ni à la culture, et ni à la beauté. Et je sais pas comment elle fait.
Vous parliez de bar mitzvah, de fêtes, dans votre enfance, comme ça, il y avait du monde, enfin, c'était joyeux, c'était ouais. Comment chez vous?
Comme je vous disais, on habitait dans le même immeuble, donc déjà, il y avait pas mal de mouvements, mais on adore être plein. Dans ma famille, on adore le bruit, le monde, la cuisine.
Ça, c'était important, il y avait un plaisir de manger dans votre famille.
Un immense plaisir de manger, et puis je pense qu'il y a... On s'aime très fort et on est, malgré les apparences, on est très pudique. Et on cuisine vraiment et je le sens comme pour se dire « Tu m'as manqué, je t'ai fait ça, j'ai pensé à toi, j'ai acheté ça. Regarde, j'ai cuisiné, regarde, je t'ai fait ce que t'aimes, les enfants, maman. » Enfin, c'est une façon pour nous vraiment de nous dire « Je t'aime », nous dire qu'on pense aux uns aux autres. Ça passe vraiment par... par la cuisine, quoi. Ça passe par la table, par la bouche.
M, le magazine du monde présente le goût de M.
Ah, je t'emmène dans mon antre, dans la cuisine.
La cuisine.
Est-ce que t'as faim?
Bah ouais.
T'as envie de quoi?
Je sais pas. Je prends tout là.
Écoute, je peux...
Alors à quoi il ressemble cette cuisine?
Alors, cette cuisine, ben, elle est chargée, hein, comme le reste de l'appartement. Il y a des tas d'épices, que je ramène.
Là, voyons.
Énormément. Ouais, puis j'en ai encore acheté, là.
C'est hyper important, les épices, dans la cuisine.
Ouais, je trouve que ça réveille tout, ça fait plaisir. Beaucoup d'huile d'olive aussi, tu vois.
Ouais.
J'adore ça. de Tunisie. Ça. Des ustensiles, des œufs, ce que je peux te dire, des objets aussi, tu vois. Il y a une photo de Brigitte.
Ouais, en concert, là.
Ouais. Ouais. C'est notre premier concert au Zénith de Paris. Donc c'est 2012, je crois, quelque chose comme ça. Là, je crois qu'on chantait « Je veux un enfant ».
Et tu passes beaucoup de temps, parce que c'est une pièce importante pour toi ici.
Ouais, j'y passe beaucoup de temps. Bah, je cuisine beaucoup. C'est pas très grand, tu vois. C'est pas une grande cuisine. C'est marrant d'ailleurs. Je crois que les gens imaginent toujours mon appartement beaucoup plus grand que ce qu'il est, mais c'est assez petit. Mais je suis allée visiter l'appartement de Boris Vian, il y a pas longtemps.
À Paris.
Visite d'ailleurs, ouais, à Paris. Qui est resté totalement dans son jus. Et c'est petit. C'est très chargé. L'appartement de Boris Vian. Il est petit et très chargé. Il est très vivant. Et puis, on sait qu'il est... Il y a eu des soirées extraordinaires, mémorables dans cet appartement. Et je me disais, ben, j'aime bien mon petit appartement. En fait. J'aimerais pas qu'il soit plus grand. Je me dis, ben voilà, si Boris Vian, il a passé toute sa vie là, pourquoi moi, je trouverais qu'il faut que j'habite dans plus grand. Si tu veux, je peux te couper un peu de pizza froide.
Ouais, avec plaisir.
J'étais une petite fille très sage et j'étais une petite fille qui n'avait absolument pas confiance en elle. Je voulais bien faire pour correspondre à l'image que mes parents avaient l'air de dire de moi. Alors, je crois que j'ai mis du temps avant de trouver ma voix, savoir profondément ce qui m'intéressait moi. Je chantais bien, donc j'avais une voix particulière, j'avais une voix très grave quand j'étais enfant. Du coup, on me poussait à chanter, j'aimais ça, mais est-ce que c'est vraiment ce qui m'intéressait? Je ne sais pas. Je crois que j'allais là où il fallait que j'aille. J'allais là où le désir des autres m'emmenait. J'errais dans le désir des autres, avant de découvrir le mien. Et le mien, je l'ai découvert tard. Je dois dire, je l'ai découvert suite à la rencontre avec la psychanalyse. Je peux pas.
Donc ça, c'est quand vous avez 20 ans.
Ouais.
Mais avant ça, du coup, donc vous chantez. Vous chantez même dans le bar de votre oncle.
Oui.
Un peu, donc vous chantez.
Oui, oui,
vous chantez quoi?
Je chantais des reprises de chansons. Alors quand j'étais dans le bar de mon oncle, j'étais vraiment petite, j'avais 10 ans. Donc je chantais ce qui passait au top 50. Donc ça pouvait être Lio, Patricia Cass et Elsa, quoi.
La musique, ça vous intéressait ou pas plus que ça?
Je prenais des cours de piano, mais ça ne m'intéressait pas. D'ailleurs, pendant longtemps, cet instrument a été un vrai tabou pour moi. Je n'osais même pas, pendant 30 ans, j'ai pas osé le toucher. Et puis, je chantais, j'avais une voix. Et je me rendais bien compte que quand je chantais, ça a créé de l'enthousiasme. Alors, de l'attention. Ouais. Tout d'un coup, c'était plus facile de discuter avec les gens. Ça procure un certain plaisir en plus de chanter. La voix, c'est
physique.
C'est un,
bien sûr.
Un plaisir intime du ventre, quoi.
Ouais.
Donc, je le faisais. Et puis après, j'ai découvert les standards américains, George Benson, Whitney Houston. Je chantais comme ça, toujours. Mais il y avait de la musique chez moi. Ma mère chante très, très bien.
Ouais.
Ma mère a une voix extraordinaire. Et mon père jouait un peu de la guitare. Il y avait un piano à la maison. Il y avait toujours des copains qui venaient. Ça, la musique était présente, en tout cas.
Mais vous n'étiez pas dans une démarche, comme certains artistes, qui disent « j'étais obsédée par la musique, j'allais tout le temps acheter des disques », tout ça. Vous, ce n'était pas du tout ça?
Moi,
pas comme ça,
quand
en
j'étais
tout cas.
Petite, je me sentais perdue. J'achetais des disques, mais... Oui, il y en a que j'ai aimé, que j'ai vraiment saigné, mais... Je les achetais parce que les autres les achetaient. Quand j'étais adolescente, j'écoutais la musique que mes amoureux écoutaient parce que j'avais l'impression qu'il fallait...
Donc c'était vraiment fort, cette chose de se laisser guider par...
Je n'en dormais pas la nuit de ne pas savoir qui j'étais. C'était assez douloureux. Je rêvais d'être quelqu'un qui aurait la capacité de se poser et d'écrire des chansons, mais je m'en sentais incapable de... En fait, j'avais comme des aptitudes à plein de choses... Mais je n'avais pas le cri intime qui donne le moteur.
Donc vos goûts, ils restaient d'une certaine façon un peu en suspension, un peu indéfinis
Enfant, ouais.
Ouais, ouais.
Adolescente aussi, je crois.
Ouais.
Je me sentais pas la chef de la bande du tout. Je me sentais vraiment... celle qui essayait de bien faire. Et pourtant, je crois que j'avais quand même quelque chose qui devait avoir du caractère, puisque quand je croise des gens, parfois, ouais. qui me disent oh, « c'est incroyable, comme tu étais comme... !» Et moi, vraiment, je me sentais transparente.
Mais vous aviez déjà cette féminité extravertie, ces robes, ou pas du tout? Parce que ça, c'est quand même être visible.
J'avais pas tellement ça, non. Mais peut-être qu'il y avait quelque chose malgré moi. Qu'il y avait peut-être quelque chose qui se voyait que je ne voyais pas.
Alors vous, bon, après le bac, vous commencez un peu des études de droit, et puis vous vous formez sur le tas, surtout. Vous faites plein de choses, quoi. Vous chantez dans les piano-bars, vous allez dans des cours de théâtre, vous jouez du Tchekhov, du Hanouille, enfin, vous multipliez plein d'expériences. C'est des années où vous vous cherchez encore, ça ?
Je dis oui à tout. ça a été mon enseignement dans la vie. Partant de mon handicap, qui était « je ne connais pas mon désir, je suis le désir des autres », j'étais incapable de dire non et je n'en revenais pas qu'on s'intéresse à moi. Du coup, ça m'a permis de travailler très tôt. Donc j'ai eu mon bac à 16 ans, à 17 ans j'ai bossé, j'ai commencé le droit, mais tout de suite j'ai travaillé. Je crois même que j'ai travaillé avant, parce que pour vous dire la vérité, j'avais tellement un désir d'indépendance qu'à 15 ans j'ai commencé à travailler même. Ce qui n'est pas du tout légal. Ce qui n'était pas légal, puisqu'il fallait avoir 16 ans. Mais à 16 ans, 15-16 ans, j'étais aux puces, je vendais des jeans les week-ends. J'avais besoin de cette... Et voilà, donc j'ai suivi ça. Et donc, j'ai appris sur le tas, vraiment, que ce soit le métier de comédienne, de chanteuse. J'ai travaillé... J'ai joué au Bataclan dans des comédies musicales, ouais. Dans des pièces de théâtre, j'ai pris des cours au cours Florent, j'ai rencontré des copains dans un cours plus tard, et on a formé une compagnie.
Les Quiches. C'était au Sudan Théâtre.
Ouais.
Ça, c'était assez important quand même, ça a duré beaucoup d'années, puis c'est des gens que vous voyez toujours.
Ah ben, c'est mes amis.
Voilà. Et donc, c'était une troupe un peu comme les Deschiens, comme les Nuls, quoi. Une troupe avec un humour un peu absurde.
Totalement.
Et puis, vous avez fait des courts-métrages. Il y a eu un long métrage qui est un peu entre un ovni et un objet culte aujourd'hui, qui est Foon, qui est une parodie de Grease, en fait, en franglais, avec une multitude de références, quoi, qui vont de, je sais pas si, de John Waters à Bibi Fock, enfin voilà.
C'est ça.
Donc c'est un univers comme ça, un peu absurde, avec justement cette esthétique aussi, un peu rétro, un peu une réinvention des années 60, enfin, une réinvention justement, une réinterprétation.
Exactement.
Voilà, donc en même temps, quasiment, vous êtes signé chez Delabel, vous avez en solo, hein, Mayan ouais. Delabel. C'est ça, vous avez un projet, après ça devient Mayanne. Mais vous décollez pas vraiment. Ça commence à marcher un peu, mais vous décollez pas vraiment. Et puis, il y a Brigitte qui arrive en 2008, cette aventure qui dure une quinzaine d'années, en fait, c'est ça, avec Sylvie Ouarot. Et donc, ce duo de femmes en robe moulante qui chantent des chansons qui parlent de désir, de deuil, de plein d'intimité. Brigitte, déjà, donc ce nom, vous l'avez pris en hommage, en référence à Brigitte Fontaine, Brigitte Lahaie, Brigitte Bardot.
Brigitte Lavoisier. Brigitte la boulangère.
L'idée d'une multitude, une multiplicité de femmes, comme ça. Ça, c'était important pour vous.
Ouais, c'était plein de choses à la fois. Ce nom-là et ce groupe-là est vraiment venu réparer quelque chose pour nous deux de nos vies. C'est vrai que moi, mes projets d'avant, bah, ça marchait pas très bien, mais je sais très bien pourquoi, en fait. Parce que pour moi, je crois que tant qu'on fuit ce qu'on est, tant qu'on ne creuse pas vraiment des choses intimes, on reste en surface.
Il y a un flou.
Il y a un flou. Et tant qu'on n'a pas accès au cœur des choses, eh bien, au cœur de la personne, à ce qui nous bouscule profondément, eh bien, ça ne fait pas écho. Les autres ne peuvent pas nous entendre. Et je crois que ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai fait doucement ce chemin vers moi, en travaillant dans plein de choses différentes, des choses dont on est fier, des choses dont on a honte, des choses un peu nazes. Moi, j'ai pas fait que des trucs cool. Moi, je fais pas partie des gens qui, à 20 ans, savaient exactement ce qu'ils voulaient, ce qu'ils allaient faire et comment ils allaient le faire. Moi, j'étais toujours un peu à la limite du mauvais goût.
Pourquoi ?
Parce que je savais pas. Il y avait comme un combat, comme quelque chose qui crie et quelque chose qui retient.
Mais dans ce que vous appelez le mauvais goût, ça veut dire quoi pour vous ?
Quelque chose de pas honnête.
Être à côté de soi, quoi, en fait.
Donc du coup, ça fait des choses très en force.
Qui sonnent faux, ouais.
Très en force ou pas assez fortes. Mais c'est marrant parce que pour moi, le mauvais goût a deux définitions. C'est ça et aussi, c'est quelque chose que j'adore. c'est les deux.
Et le mauvais goût que vous aimez, c'est quoi ?
C'est celui qui est complètement à l'intérieur de nous.
C'est-à-dire ?
C'est ce qui est totalement... humain. C'est la vérité profonde. C'est là où se promène notre sang, notre vérité, notre... Qui peut penser qu'il est totalement de bon goût? Enfin, qu'est-ce que c'est d'être totalement de bon goût si ce n'est un consensus général snob? Moi, je crois que ce mauvais goût intime, c'est là où il y a le désir, l'érotisme, le moteur profond, quoi. Ouais. C'est là où il y a quelque chose de, qui nous dépasse et qui est vrai. Je crois que ce qui touche, ce qui nous bouscule chez les uns, chez les autres, c'est la faille. C'est ce qui laisse entrevoir quelque chose de nous, de notre intimité, de notre profondeur. Et je trouve que c'est là où c'est intéressant.
Et dans Brigitte, il y avait déjà ça, c'est-à-dire ce bon mauvais goût dont vous parlez, c'est-à-dire le mauvais goût qui est finalement une expression de choses qu'on a en soi-même, en fait, hein, qui peuvent être too much, qui peuvent être clinquantes, qui peuvent être avec des robes ultra brillantes, avec des choses, voilà. Il y avait déjà tout ça, en fait.
Ouais, il y avait tout ça.
Parce que si vous essayez de décrire un peu cet univers, je pense que vous parliez tout à l'heure de votre mère qui aimait les films RKO et Rita Hayworth, et il y avait tout ça déjà dans Brigitte.
Il y avait tout ça, évidemment. Ouais. Mais je pense que Brigitte, c'est un nom, comme vous dites, qui évoquait ces femmes iconiques.
Voilà, des années
50,
60.
Mais je vais vous faire un aveu qui n'évoquait pas que ça. Je ne l'ai pas choisi totalement au hasard. Quand je m'appelais Mayanne Delhem, ce pseudonyme de très mauvais goût, puisqu'il est totalement à côté de moi, que j'ai choisi pour de drôles de raisons, vraiment pas très honnêtes et absolument sous influence. J'ai fait les premières parties d'un groupe qui s'appelle Kyo. J'étais en tournée avec eux et c'était des vieux copains de copains. Mais il y avait mes musiciens qui étaient là et je n'ai pas bu un verre d'alcool jusqu'à mes 25 ans. Voilà, je n'aimais pas le goût, je n'ai pas bu, voilà, ça ne m'était pas arrivé. Et puis, ils buvaient tous une bière, une vodka pomme, une vodka tonique, je ne sais pas, des trucs, quoi. Ils buvaient après les concerts et on allait dans des boîtes. Moi, j'ai toujours dansé sans alcool, je me suis toujours bien marrée. Mais ils me disent, bah là, Aurélie, t'as pas envie de boire un verre et tout. Puis je dis, oh non, mais oui, mais bof. Bon, allez, ok. Et puis un soir, j'ai bu une vodka pomme ou une vodka orange, enfin un truc avec un alcool fort et beaucoup de jus de fruits pour cacher, pas trop sentir le goût. Et j'étais ivre pour la première fois. Et dans cette ivresse, dans ce lâcher-prise.
Vous avez aimé l'ivresse?
J'ai adoré. Puis j'étais avec mes amis. J'étais dans quelque chose de rassurant. Et cette ivresse. Bah, m'a permis de lâcher prise, d'être moins Mayanne Delhem, cette espèce de truc qui n'était absolument pas moi. Et mes copains, ce soir-là, m'ont appelé Brigitte. Oh. Qui était le nom de la mère de mon guitariste, le prénom de la mère. Et c'était comme mon Mr. Hyde.
Ouais.
Tout d'un coup, ce prénom-là, c'était mon vrai. Mayanne, c'était mon faux. Mais Brigitte, c'était pas du mensonge. C'était un vrai petit cri intime. Et quand il a fallu trouver un nom pour ce groupe, quelque part, pour moi, c'était aussi dire, à partir de maintenant, je vais dire la vérité. Brigitte, c'était un terrain de jeu extraordinaire. Je me suis absolument pas cachée. Je me suis pas sentie dans un compromis qui m'empêchait. Pas du tout. Sylvie, au contraire, me laissait vraiment la place d'exprimer tout, que ce soit dans l'image, dans les costumes, comme vous dites, dans les textes. Dans les mélodies, j'ai pu vraiment exprimer des choses très importantes pour moi.
Alors Brigitte, bon, ça a duré, donc on le disait, 15 ans. Ça s'est arrêté, donc sur décision de Sylvie, votre partenaire. Et puis, depuis, bon, bah, vous avez fait énormément de choses. Vous avez fait ce film, vous avez commencé à parler en votre nom. Là, il n'y a plus que vous, maintenant. Et vous avez fait ce film, Rose, un très beau film avec Françoise Fabian, qui parle d'une veuve joyeuse, de la vieillesse, bon, qui parle de plein de choses, hein, d'amour, de... Et puis, vous avez fait également un album solo, Bon Bologna, qui est sorti là il y a quelques mois. Vous diriez que c'est quoi, justement, le goût de cet album, de ce Bon Bologna?
Je parle beaucoup en filigrane de mon enfance, en fait, dans ce... Oui. De là d'où je viens, de mes origines, on va dire. Quelles que soient mes origines, plus que de mon enfance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on est là. Et finalement, c'est peut-être un disque aussi pour dire, peu importe ce qu'on a vécu, même les épisodes les plus durs, que ce soit l'exil, les violences sexuelles, que ce soit les ruptures, voire ses enfants grandir et nous échapper, toutes ces choses qui font la vie, quoi. En fait, peu importe la violence qu'elles ont, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et on a toujours la capacité, je crois, quand on est vivant, de pouvoir transformer les choses qu'on a vécues en quelque chose.
Oui, dans votre disque, effectivement, c'est ça. Il y a vraiment ce goût de la transformation. Ça, c'est quelque chose qui traverse les chansons et qui est très intéressant aussi parce que dans votre vie, effectivement, les échecs ont été très importants, très libérateurs. Enfin, ce que vous en avez fait, je veux dire.
C'est le seul véritable enseignement, ce sont les échecs. Ce sont les mots durs plus que les mots doux qui nous font rebondir, hein, qui nous permettent de découvrir quelque chose de nous, de notre force profonde. Ouais, moi, j'aime ces métaphores. Métamorphose en plus. Je trouve que c'est intéressant de ne pas cacher sous le tapis ou sous la table, voilà, planquer les choses, mais au contraire, de les prendre, de les embrasser et de dire voilà, je vais en faire quelque chose. Moi, il y a un film que j'adore, c'est 8 Mile.
Sur Eminem ?
Ouais. Je trouve ce film absolument génial et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin du film, il est démasqué. Le mec est en face de lui, donc c'est cette espèce de combat de punchline où on se casse l'un l'autre.
Oui.
Et il sait que l'autre a tous les éléments pour le démolir. Il sait tout de lui, il va le démolir. Et là, il reconcentre toutes ses forces et il écrit quelque chose où il ne crâne pas. Il écrit quelque chose où il parle de lui profondément. Tout d'un coup, il donne au public toutes ses failles, toutes ses fragilités, tout ce qu'il a en lui, qu'il a tenté de cacher. Et l'autre ne peut plus parler. Et il a totalement touché le public, parce qu'on est tous pleins de failles, fragiles, et on est beaucoup, je crois, beaucoup plus touchés par la fragilité que par la force féroce.
Oui, justement, j'allais vous demander, enfin, vous avez parlé de vous-même de 8 Mile, mais effectivement, si dans ce qui vous plaît à vous, dans les œuvres qui vous plaisent, les films qui vous nourrissent, les bouquins, les je sais pas, est-ce que justement vous allez vers des œuvres comme ça, c'est-à-dire des gens qui parlent d'eux, très honnêtement, de leurs blessures, c'est ça votre goût en fait?
C'est vraiment ça mon goût. Que ce soit dans l'art contemporain, j'adore Sophie Calle qui parle d'elle, je trouve qu'elle est c'est drôle, c'est profond, ouais. C'est mouvant,
c'est dur, aussi,
c'est
ouais.
Dur, c'est il s'agit d'elle tout le temps et ça ça me touche, mais moi je pleure devant quand il y avait son exposition au musée de la chasse, ça me fait pleurer, c'est rare de pleurer quand même
ouais.
Dans les musées. Et j'aime Romain Gary pour les mêmes raisons. Il glisse toujours des choses de lui comme ça, très fortes. J'adore les gens qui parlent d'eux, qui racontent quelque chose de leur vérité. Voilà. Pas juste parler de soi, mais qui osent parler de leur vérité. Il y avait quelqu'un qui donnait une définition de la country.
Ouais.
C'est trois accords et la vérité. Je trouve ça génial. En fait, parce qu'on peut dire ça de toutes les expressions artistiques. Pour moi, la seule chose qui compte, c'est le récit intime, c'est la vérité.
M.
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 M. M.
Le goût de M.
Où est-ce qu'on est là, Aurélie ?
Alors là, on est dans mon salon.
Dans le salon. À quoi il ressemble ce salon ?
Ben, y a un gros canapé en velours kaki, il y a un petit canapé en velours vert aussi.
Ouais. Le velours, ouais.
Ouais.
T'aimes ?
J'aime bien, bah, c'est doux.
Et là ?
Là, c'est une photo avec Françoise Fabian.
C'est votre goût, Françoise Fabian ?
Je l'aime tellement, oui, c'est complètement mon goût. J'aime sa liberté, j'aime sa force, j'aime son courage, j'aime sa sincérité, j'aime sa curiosité, j'aime comme elle se met en marche, comme elle est vivante, comme elle aime le travail. J'adore le travail, moi. Ça a été un refuge pour moi quand je vivais des choses dures. Le travail m'a toujours sauvée, réconfortée, m'a toujours fait du bien. C'est vraiment quelque chose que j'honore.
Ouais. Pénélope Bagieu.
Ça, c'est ouais. Pénélope Bagieu. Alors, c'est assez drôle. Il y a une petite histoire, ce tableau. J'organise des petites visites dans les musées en groupe avec je fais venir un conférencier ou carrément le commissaire de l'exposition parfois et voilà, c'est un petit club et les musées sont trop sympas, ils nous reçoivent et tout et là j'organisais une petite visite de l'expo de Cindy Sherman et on était ensemble avec Pénélope et Pénélope prend en photo cette photo de Cindy Sherman et je prends en photo Pénélope qui prend en photo
ouais.
Et Pénélope a repris des œuvres qu'elle aimait bien dessiner. Donc, elle a dessiné la photo de Cindy Sherman. Donc, c'est une photo de Cindy Sherman reprise par Pénélope. Je trouve ça assez chouette.
Et là ?
Mon piano.
Vous composez sur ce piano ?
Ouais, je compose beaucoup sur ce piano. Et pourtant, j'ai un meilleur piano à la campagne. Mais c'est pas mon...
Comment il sonne, ce piano, voyons ?
Il sonne... Il sonne pas très bien, mais je l'aime.
M, le magazine du Monde présente Le goût de M.
Aurélie Saada, on est chez vous. Alors, quelle relation vous avez avec les objets qui vous entourent ? C'est important pour vous ?
Ah oui, alors il y a vraiment beaucoup d'objets chez moi. J'ai beaucoup de mal à me séparer de mes objets. Et pourtant, quand je suis allée vivre aux États-Unis, ne sachant pas exactement pour combien d'années on partait avec mes filles, je n'ai amené que des photos de ma famille. J'ai amené des photos de ma grand-mère, de ma mère, de ma sœur, de mes filles, mes neveux. C'est tout ce que j'ai amené. J'ai amené aucun objet. Je mens. J'ai pas amené aucun objet. J'ai amené aussi le tout premier tableau qu'avait fait et que m'avait offert le père de mes filles. Mais c'est vrai que chez moi, c'est plein de lampes, de petites sculptures, de dessins, de tableaux. Et encore, j'aimerais avoir une plus grande maison pour pouvoir... les mettre, parce qu'il y en a plein cachés dans le placard, là derrière, il y a plein de...
Alors qu'est-ce qu'ils ont en... Ils ont peut-être rien en commun d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun, les objets qui vous plaisent ?
Ils sont tous gorgés de souvenirs. Chaque objet me rappelle quelqu'un ou un moment précis. Donc c'est comme si j'avais autour de moi mes amis, ma famille, mes souvenirs. Je mélange beaucoup, mais on va dire que... Moi, j'adore le début du XXe siècle. J'adore la fin du XIXe, le début du XXe siècle. J'adore l'art nouveau, j'adore l'art déco. Il y a quelque chose d'assez chargé, c'est vrai, à cette époque-là, dans le style, quoi. Voilà, c'est pas minimal chez moi, c'est sûr. Parfois, j'aimerais avoir cette capacité à être minimal et quand je vais dans des endroits où il y a presque rien, je me dis, mais comment ils font pour se débarrasser de tout ? Moi, je peux pas. Ma mère m'a offert une bougie que je trouve trop jolie. Je la garde. J'ai trouvé dans par terre un petit livre italien des bonnes manières comme ça sur un trottoir. Je l'ai gardé. Je garde des petites choses comme ça qui me voilà. La menorah qui était chez ma grand-mère. Les lampes que j'ai achetées en tournée parce que j'adore les brocantes. Les dessins de mon amie Delphine Colli, d'Inès Langevial, les dessins de mes filles que j'encadre. Oui. Voilà. Je m'entoure de choses qui me rappellent des souvenirs.
Il y a beaucoup de femmes chez vous.
Il n'y a que ça.
C'est important, les femmes ?
Oui.
Dans votre vie ?
Oui, c'est très important. Je vis entourée de femmes. J'ai grandi entourée de femmes. De femmes fortes.
Ouais.
De femmes super. Et d'une grand-mère super, d'une mère super, d'une sœur super.
Votre sœur est cuisinière ?
Ouais, ma sœur est chef, elle fait des livres, elle est géniale, elle s'appelle Chloé. Et on est très proches, j'ai fait deux filles et que j'ai élevées seules, donc c'est vrai que j'évolue dans un univers très féminin, sans être béni oui-oui non plus. Hein. J'aime pas tellement ce mot sororité que je trouve un peu bizarre, comme fraternité d'ailleurs, je trouve que ce sont des mots un peu bizarres. Hein.
Qu'est-ce que vous trouvez bizarre dans la sororité ?
Bah, la sororité ou la fraternité est comme ça, comme un étendard, comme une injonction, ça pourrait être malhonnête. Je me suis jamais dit que c'était parce que c'était des femmes que je les accrochais au mur, que je les aimais, mais c'est parce que c'était elles. Je fais confiance aux femmes dans le travail, c'est vrai, c'est vrai, peut-être. Je me suis interrogée, je me dis pourquoi tu travailles avec autant de femmes ? C'est quand même, je crois que je leur fais confiance. Je trouve qu'il y a il y a de la force et il y a de l'humilité, souvent, chez les femmes. Elles sont pas là pour dire « Oui, si, si, je suis capable de le faire », alors qu'elles n'en sont pas capables. Elles sont souvent, je trouve, très honnêtes avec ce qu'elles ont de plus fort ou de plus faible. Et du coup, j'ai tendance à me faire beaucoup plus confiance aux femmes, c'est vrai. Mmh.
Vous parliez de costumes, de vêtements. Là, depuis quelque temps, sur votre Instagram, vous faites des recettes de cuisine. Alors, comment vous appelez ça? Ou vous portez une robe à chaque fois aussi. Donc, c'est à la fois la robe et à la fois la recette. Vous parlez de costumes, justement. Parlez-moi de votre rapport aux vêtements, de ces robes-là, justement, que vous portez. Vous vous habillez comme ça tous les jours ou c'est...
Je ne mets pas des robes paillettes tous les jours.
Non.
Hein. Là, par exemple, je suis habillée avec un pull et un jean.
Pourquoi vous aimez tant les paillettes? Le doré.
Parce que dans ma famille, c'est très présent, même chez ceux que j'ai moins aimés. C'est quelque chose qui reste comme ça. Et puis, je trouve que tout, c'est intéressant de voir les ingrédients qu'on a. Je parle de cuisine, mais je parle de chansons aussi quand je dis ça. Et quand on cuisine ou quand on écrit, on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'il y a, comme émotion, comme souvenir, avec le vivant, avec ce qui reste. Et on fabrique quelque chose pour notre bouche, mais aussi pour les bouches des autres. C'est amusant, je trouve, comme finalement la cuisine et la chanson sont assez liées. Moi, je dis souvent que je cuisine des souvenirs, mais je chante des souvenirs aussi.
Vous avez l'impression d'être perméable, vous, au goût de l'époque ?
Eh bien, pas tellement.
Pas tellement.
C'est un peu bizarre, ça. Non, mais d'ailleurs, je l'étais pas tellement déjà. Je l'ai jamais vraiment été. J'étais perméable au désir des autres, mais enfant, enfin, adolescente. Mais une fois que je m'étais enclenchée, c'était fini. J'ai beaucoup de mal à mentir, à tricher.
Quel type de goût vous plaise? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas?
J'aime l'abondance. J'aime les couleurs vives. J'aime ce qui brille, que ce soit vrai ou faux d'ailleurs. J'aime la générosité. J'aime la combativité. J'aime les bâtisseuses et les bâtisseurs. J'aime l'horizon. J'aime mes erreurs.
Vous diriez que vos amis ont du goût? C'est un truc important pour vous ou pas?
Je sais pas ce que ça veut dire. Ça dépend comment on définit le bon goût et le mauvais goût. Mes amis sont super. Dans leur bon goût et dans leur mauvais goût. En plus, j'ai un attachement particulier au mauvais goût. Moi, je trouve que c'est la limite où il y a se balader sur le mauvais goût. C'est comme se balader sur le fil, entre le fil bien vivant, quoi. C'est ce que je vous disais. C'est là où ça devient intéressant, quoi.
C'est là où il y a de la libido.
C'est là où il y a de la libido, c'est là où il y a tout.
Ouais.
Quoi. Il y a ce qui est intéressant. Quoi. Si trop d'un côté ou trop de l'autre, bon, c'est...
Vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût?
C'est peut-être la seule chose vraiment qu'on partage et qui fait que ça dure, je crois. C'est d'avoir des goûts communs, une vision commune. Enfin, si vraiment il n'y a rien qui nous donne envie de partager des moments ensemble, c'est difficile d'être amoureux. Ou alors, faut vite retourner chez le psychanalyste. Mais c'est même assez dur. Je me souviens, j'ai été amoureuse. Enfin, j'ai eu une histoire d'amour avec un garçon après le père de mes enfants. Et on est allés ensemble à New York. Et New York s'était chargé de souvenirs pour moi. Et j'y suis allée avec cet autre garçon après, et je n'ai fait que pleurer, parce que on n'avait rien en commun, rien ne nous intéressait. Il voulait manger ça, je voulais ça, il voulait aller là, je voulais aller là, il s'ennuyait quand j'entrais là, je sortais, il aimait pas quand on allait voir des expos, il était plus truc ça, c'était moche, moi je trouvais ça. Enfin, on était... Et je pleurais, c'était terrible, j'ai passé une semaine à pleurer en cachette de lui. Je m'évadais pour dire, je marchais un peu et je suis allée pleurer. En me disant, comment vais-je faire pour oublier celui que j'ai aimé?
Alors ça serait quoi pour vous, Aurélie Saad, avoir du goût?
Ne pas passer à côté de soi.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lachtar. Le Goût de M est produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du Monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.